Vous êtes sur RTL.
Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos, donc tous ensemble. Ce soir, les questions se multiplient face au virus, la 5e vague déferle. Alors, comment organiser Noël? Est-ce qu'il faut vacciner nos enfants? Est-ce que le variant Omicron nous menace? Et puis, faut-il débattre de la vaccination obligatoire? Bruxelles ouvre la porte aujourd'hui, Paris la referme. Sur tous ces sujets, Arnaud Fontanet va vous aider à y voir plus clair. L'éminent membre du Conseil scientifique sera notre invité de 18h15 et il répondra aussi à vos questions au 3210. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calèche.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Une championne de judo au visage tuméfié, son agresseur présumé relaxé. Le monde du sport s'émeut. Le parquet fait appel. Récit dès le début de ce journal. Les mots d'Emmanuel Macron en Conseil des ministres sur l'affaire Nicolas Hulot, information RTL. Il salue la libération de la parole des femmes, mais dénonce en même temps les tribunaux médiatiques. À suivre aussi le combat des SAM pour la poursuite de leur activité de métallurgie dans l'Aveyron et le combat des pro-avortements aux États-Unis. La Cour suprême, désormais majoritairement conservatrice, se penche aujourd'hui sur l'IVG. Les courses dans le Quintet Plus à Deauville, il fallait jouer le 15, l'As, le 10, le 2 et le 14.
Dans un quart d'heure, la brigade RTL s'interrogera. Éric Zemmour avait-il le droit d'utiliser des images de films, de JT dans sa vidéo de candidature? 18h40, on défait le monde, vos 20 minutes de découverte avec Cyprien Sini et la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Menu s'il vous plaît.
Ce soir, vous allez comprendre comment les candidats financent leur très chère campagne présidentielle. Dons, emprunts, trésors de guerre ou ventes de t-shirts. C'est un peu qui veut donner des millions. Au menu également, reportage Céline en immersion chez les électeurs qu'on n'entend pas, qui ne militent pas et qui s'apprêtent à revoter Macron en 2022.
19h15, on va refaire le monde, débattre autour d'Éric Brunet, notamment de la vaccination obligatoire ce soir. Des points réguliers tout au long de l'émission sur le temps également avec vous. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance.
Retour du froid demain sous un ciel de traîne, donc mitigé.
Détail dans quelques minutes.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et c'est donc une décision de justice qui enflamme le monde du sport, jusqu'à Teddy Riner ou Clarisse Agbenenou. La relaxe hier d'un entraîneur de judo accusé de violence conjugale.
Par sa compagne, la championne olympique Margot Pinault, qui a posté sur les réseaux sociaux une photo de son visage tuméfié. Mais l'affaire n'est pas terminée, Anne Le Hénaff, le parquet de Bobigny fait appel de la relaxe.
Oui, l'accusation avait demandé 1 an de prison avec sursis. Mais la présidente de la Cour a relaxé Alain Schmitt hier soir au bénéfice du doute. « Nous n'avons pas assez de preuves de culpabilité », a-t-elle dit. Ce qui révolte la judokate, jointe par Jean-Michel Rascol.
« Je me suis fait cogner à coups de poing, il m'a pris la tête, il a cogné contre le sol, il a essayé de m'étrangler. J'ai vraiment cru mourir, j'ai réussi à me dégager de lui. Que je me suis dit, bah là, si tu sors pas de chez toi, t'es morte. Je comprends que les femmes n'osent pas porter plainte parce qu'au final, ça mène à rien. »
L'entraîneur, lui, parle d'une dispute violente des deux côtés. Deux versions contradictoires, donc, son avocat Malik Belloul.
Nous, on plaidait la légitime défense et, à titre subsidiaire, le bénéfice du doute. Vu le physique, la carrure, la force que peut déployer M. Schmitt, les violences qui sont décrites par Mme Pinault ne correspondent pas à l'état de ses blessures. Lorsqu'il a été relaxé, bah, ça a été une délivrance.
Il y aura donc un nouveau procès, la date n'est pas encore connue.
Les explications de Anne Le Hénaff du service police-justice de RTL. Dans un autre dossier d'accusation de violence faite aux femmes, voilà une sortie qui risque de ne pas passer inaperçue.
Vous nous la révélez ce soir pour RTL, William Galibert. En Conseil des ministres tout à l'heure, Emmanuel Macron est revenu sur l'affaire Nicolas Hulot.
Oui, c'est la première fois que le président réagit depuis les nouvelles accusations contre celui, rappelons-le, qui était pendant presque 1 an et demi son ministre de l'écologie et le numéro 3 de son gouvernement. Que dit le président? Il faut que la parole des femmes se libère, et c'est très bien qu'elle se libère. Avant d'ajouter une nuance de taille, mais la justice, dit Emmanuel Macron, la justice ne se rend pas dans les tribunaux médiatiques. Ces propos, plusieurs participants au Conseil des ministres ce matin ont pu les confirmer à RTL. Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État réagit à des accusations contre Nicolas Hulot. En 2018, alors que ce dernier était toujours ministre, le porte-parole de l'Élysée expliquait qu'Emmanuel Macron accueillait tout ça avec, je cite, « une sérénité de marbre ». Depuis, 3 ans se sont écoulés et après le reportage d'Envoyé spécial la semaine dernière, une nouvelle enquête qui cible le comportement de Nicolas Hulot envers les femmes doit être publié demain par l'hebdomadaire Paris Match.
Emmanuel Macron qui fustige donc le tribunal médiatique en Conseil des ministres, information RTL, signé William Galibert. Merci William.
Le parc des expositions de Villepinte plutôt que le Zénith. Éric Zemmour annonce ce soir sur Twitter le déménagement de son premier meeting de campagne, ce sera dimanche, expliquant qu'il y avait trop de demandes. Face à la cinquième vague, face au variant Omicron, c'est une petite musique qui commence à se faire entendre, celle de la vaccination obligatoire. L'Allemagne se prononcera d'ici la fin de l'année, l'Autriche sautera le pas le 1er février. Pour la présidente de la Commission européenne, le sujet ne doit pas être tabou.
Un tiers des Européens ne sont pas vaccinés, c'est beaucoup. Tous ne doivent pas être vaccinés, comme les tout-petits par exemple, ou les personnes ayant certaines pathologies. Mais la plus grande partie le peut. C'est pourquoi je pense qu'il est raisonnable et approprié d'avoir cette discussion sur la vaccination obligatoire. C'est une discussion qui doit être menée.
Mais face à Ursula von der Leyen, que vous venez d'entendre, la France, elle, assure avoir choisi une autre voie. On n'en est pas là, assure ainsi le ministre de la Santé.
L'obligation vaccinale n'est pas le choix que la France a fait. D'abord, qu'allons-nous dire à une personne âgée chez elle qui ne s'est pas fait vacciner ? Est-ce qu'on va mettre un régime d'amende ? Est-ce que c'est... Enfin, qui dit obligation dit contrôle et sanctions. Donc la faisabilité n'est pas évidente. Bien sûr, je souhaite ardemment que ceux qui n'ont pas encore fait cette démarche de se faire vacciner le fassent. Et sans obligation, si possible, évidemment. Nous avons fait le choix, nous, du pass sanitaire, qui a été un incitatif puissant. C'est notre sésame pour en sortir sans mesures supplémentaires.
Olivier Véran, qui, face à la difficulté d'obtenir des rendez-vous pour le rappel, promet une majoration pour les pharmaciens qui vaccineront le week-end, pour les infirmiers qui vaccineront à domicile. Par ailleurs, 300 centres de vaccination supplémentaires ouvriront prochainement.
Et puis la France, par ailleurs, durcit son protocole sanitaire pour les voyageurs en provenance de l'étranger, et ce dès ce week-end, Benjamin Sportouche.
Oui, à partir de samedi, précisément, pour les voyageurs qui viennent d'un autre pays de l'Union européenne, seuls les non vaccinés seront pénalisés puisqu'ils devront fournir un test de moins de 24 heures. Pour les voyageurs hors Union européenne, il leur faudra un test négatif de moins de 2 jours, même s'ils sont vaccinés. Et c'est bien plus strict, bien sûr, pour les pays d'Afrique australe comme l'Afrique du Sud. Certes, les vols vont reprendre samedi, mais les voyageurs entrent dans la catégorie rouge écarlate. Ils devront se plier à un test au départ de leur pays et à l'arrivée en France. Si le test est positif, isolement obligatoire de 10 jours dans un hôtel proche de l'aéroport, sous surveillance des forces de l'ordre, avec amende à la clé en cas d'infraction. Et si le test est négatif, eh bien pas de liberté de mouvement pour autant, isolement de 7 jours, y compris pour les personnes vaccinées, et contrôle de police aléatoire sur le lieu de confinement. Tout cela, bien sûr, vous l'avez compris, pour éviter la propagation du variant Omicron. Il y a aujourd'hui 13 cas suspects sur notre territoire.
Benjamin Sportouche, merci. Durcissement possible aussi, des conditions de voyage aux États-Unis, tests plus stricts et quarantaines évoquées aujourd'hui par des responsables sanitaires.
Et toujours aux États-Unis, dans un instant, dans ce journal sur RTL, l'avenir du droit à l'avortement devant la Cour suprême. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
RTL 18h09, la suite de votre journal avec ces manifestations en ce moment devant la Cour suprême à Washington, où les sages se penchent aujourd'hui sur le droit à l'avortement.
Oui, les 9 juges vont en effet se pencher sur une loi du Mississippi qui veut interdire l'IVG après 15 semaines de grossesse. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant d'RTL aux États-Unis. Les débats seront suivis de près, car c'est bien le droit à l'avortement qui pourrait être remis en cause.
Oui, d'un côté, enlevez vos mains de nos bébés, de l'autre, ôtez vos mains de notre corps. Cette journée est capitale pour les Américaines. Alors, pro et anti-avortement crient leur colère ou leurs inquiétudes aux portes de la Cour suprême. À l'intérieur, les débats ont commencé.
Of course there will.
Retransmis en direct audio. Les 9 juges écoutent les arguments des deux parties et leur posent éventuellement des questions. Le Mississippi veut interdire l'avortement après 15 semaines, contre 23 semaines environ actuellement. Pour certains, c'est une première attaque juridique avant de l'interdire totalement. La Cour ne statuera pas avant plusieurs mois, peut-être en juin. Mais les plaidoiries éclairent sur l'état d'esprit des juges, 6 conservateurs et 3 libéraux. Le simple fait que la Cour se saisisse du dossier, rien ne l'y oblige, est un premier indice. Une majorité des juges est à minima sensible aux arguments du Mississippi.
Lionel Gendron à New York pour RTL.
Le patron de Renault a promis hier de ne pas les laisser tomber. Mais pour les salariés de la SAM à Viviers dans l'Aveyron, c'est la pérennité de leur site qui doit être assurée.
Avec des métallos venus de toute la France, ils ont manifesté aujourd'hui entre 4 et 8 000 personnes pour dénoncer la décision du donneur d'ordre Renault de ne pas soutenir le projet de reprise du site. Eux croient en son avenir, à l'image de Stéphanie, salariée depuis 25 ans à la SAM et venue manifester avec son fils.
Là, on a l'impression que tout s'effondre, on a l'impression qu'on nous ment, qu'on nous trahit et on aimerait que les choses changent. On n'est pas que des numéros dans la vie. Ce sont des humains, ce sont des familles, ce sont des histoires de vie. C'est compliqué ce qu'ils nous font subir, c'est compliqué.
Votre petit garçon, comment s'appelle-t-il ?
Lucas.
Bonjour Lucas.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'il y a de marqué alors sur les panneaux que tu portes ?
Je suis petit Sam et le travail de ma maman est aussi mon avenir.
Pour l'aider à grandir dans sa ville, il faut que j'ai du travail dans ma ville. Je suis née ici, je veux travailler ici, j'ai acheté ma maison ici et je veux que mon fils ait la chance de grandir dans notre ville. Quand je suis arrivée ici, j'avais 20 ans. Je pleurais parce que je ne voulais pas rester. Maintenant, je pleure parce que je ne veux pas partir.
Stéphanie et son fils dans la manifestation de la SAM en Aveyron, micro RTL de Patrick Tégéraud. Il y a quelques années, on aurait pu croire à de la science-fiction. À l'occasion des Assises du commerce à Bercy, petit tour d'horizon ce soir des courses et du shopping de demain. Toujours plus vite, toujours moins d'humains. Pour RTL, Pierre Arbulot.
Le commerce du futur, c'est un magasin sans caisse. Les expérimentations ont déjà commencé partout dans le monde et même en France, avec Auchan dans un campus du Nord et Carrefour en plein cœur de Paris. Des caméras ultra perfectionnées détectent les produits retirés des rayons. Le consommateur n'a plus qu'à régler à une borne quand il n'est pas directement débité via une appli. Demain, les boutiques seront aussi évidemment toujours plus digitales, plus technologiques. Certaines chaînes de vêtements développent par exemple des miroirs connectés pour simuler des essayages. Ce sera des livraisons par drone, en voiture autonome. Les commerces seront plus hybrides aussi avec le développement des corners, ces petits bouts d'un magasin dans un autre, comme un rayon sport Décathlon chez Franprix, par exemple. Enfin, et c'est une spécificité française, le vrac devrait faire une progression fulgurante dans les super et les hypermarchés. La loi climat en impose au moins 20% d'ici 2030.
Voilà, et demain, il sera donc toujours très important de ne pas oublier ces petits pochons en tissu pour le vrac.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Figurez-vous que les masques peuvent aussi servir à faire des maths. À Limoges, la municipalité vient de distribuer des kits de géométrie. Équerre, rapporteur, règle, ça vous rappellera des souvenirs réalisés à partir de masques récupérés par la ville depuis la mi-mai et transformés par une entreprise du département voisin de la Vienne. 320 000 masques récupérés, 6 000 kits fabriqués.
Ça, c'est chouette. Ouais. Rien ne se perd, tout se transforme. Merci beaucoup, Marion Calais. Le temps maintenant, Peggy.
Pas vous dire chouette parce que c'est pas vrai, sauf sur quelques régions, peut-être la Méditerranée, oui, ouais, on a du soleil avec du vent. Et ben oui, c'est vrai. Mais sur le nord-ouest aussi, on va retrouver des éclaircies et même jusqu'à l'Aquitaine dans l'après-midi. Après, c'est vrai, c'est un temps plutôt mitigé, ce qu'on appelle un ciel de traîne entre les Pyrénées et les régions de l'Est. On aura des nuages, quelques éclaircies dans l'après-midi, des averses, de la neige à basse altitude également, avec le retour du froid. Et sur les frontières du nord, on pourrait même avoir un peu de neige en pleine, quelques flocons tout au long de la journée. Les températures, du coup, vous l'avez compris, elles seront plus froides, en tout cas en baisse, globalement comprises entre 0 et 5 degrés demain matin, jusqu'à 7 près de la Méditerranée. Et les maximales, de 4 à Besançon à 14 à Nice, 6 à Paris, Strasbourg, Limoges et 8 à Toulouse.
Merci Peggy.
La brigade RTL Soir.
Et maintenant sur RTL, on s'interroge. Éric Zemmour va-t-il payer cher sa candidature à la présidentielle ? On s'explique. Hier, le polémiste a annoncé son entrée en campagne avec une vidéo 10 minutes au ton dramatique avec des extraits de JT, des archives du général de Gaulle, des images de vieux films français, de monuments classés. Et depuis, on ne compte plus les personnalités ou les institutions qui réclament le retrait de ce clip. À chaque fois le même argument, l'équipe Zemmour n'a pas demandé d'autorisation pour utiliser ces images. On va donc poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Déjà, qui s'insurge ?
Eh bien, beaucoup de monde en effet, des médias comme France 3 ou l'agence France Presse, car des morceaux de reportage ont été utilisés. Des ayants droit aussi, car il y a des extraits de films avec Jean Gabin ou encore Jean-Paul Belmondo. Bernard Cerf, le neveu de la chanteuse Barbara, qui apparaît elle aussi dans le clip, n'a pas été prévenu.
Je trouve cette appropriation de Barbara tout à fait scandaleuse. L'homme dont nous parlons a le droit d'aimer qui veut ou pas, c'est son droit. Mais mettre une image de Barbara, c'est laisser à croire que ses ayants droit ont donné un accord. Or, je n'ai pas donné un accord du tout.
Alors voilà Bernard Cerf qui parle à Laurent Marsic pour RTL et beaucoup se sont donc rapprochés de leurs avocats pour donner des suites judiciaires.
Éric Zemmour, est-ce qu'il a le droit d'utiliser 2 secondes d'archives par-ci, 2 secondes de film par-là ?
Oui, c'est possible, comme pour toutes les vidéos. Vous avez le droit en fait d'utiliser quelques secondes d'images qui ne vous appartiennent pas et c'est probablement l'argument que vont utiliser ses avocats.
Mais c'est légal ?
Oui, mais à condition d'en avoir l'autorisation. Et c'est bien là le problème. Visiblement, elles n'ont pas été demandées avant la diffusion, comme en témoignent ceux qui apparaissent dans le clip. Ensuite, les équipes d'Éric Zemmour invoquent le droit de la courte citation. Diffuser quelques secondes des images, c'est légal, sans accord, mais mais uniquement si c'est dans le cadre de sujets d'information, comme ici, à la radio ou à la télévision, par exemple. Et il faut impérativement citer la source, ce qui n'est pas le cas.
Il risque quoi, Éric Zemmour ? Ça peut lui coûter cher ?
Alors, ça peut lui coûter cher, oui, car il y a des dizaines d'extraits et donc potentiellement bien des dizaines de plaignants. Ils peuvent saisir le juge et demander à ce que les images ne soient plus diffusées. Ils pourront aussi être indemnisés pour le préjudice subi. Et cela peut se compter en centaines de milliers d'euros.
Les explications d'Arnaud Touche pour RTL. Une petite pause dans RTL Soir et ensuite on va se demander comment gérer Noël face au virus. Est-ce qu'il faut craindre la montée de la cinquième vague ? Est-ce qu'il faut craindre le nouveau variant ? Est-ce qu'il faut débattre de la vaccination obligatoire ? Arnaud Fontanet, éminent membre du Conseil scientifique, sera notre invité sur RTL et vous allez pouvoir lui poser vos questions au 3210. À tout de suite.
RTL Soir avec Julien Cellier.